RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour une semaine avec notre invité, le pasteur Alain Patrick. Bonjour.
Bonjour Annabelle. Bonjour.
Tu vas bien?
Bonjour, bonjour.
Bonjour, pas Sarah.
Ça fait longtemps
bonjour.
Qu'on t'a pas vu. T'es venu nous voir il y a longtemps. C'était en fait au début des émissions Parole de femme. Ouais. On avait parlé des célibataires, notamment.
C'est ça.
Tu nous avais bien fait rire.
Ouais, ouais.
Et donc, tu vas passer toute la semaine avec nous.
Amen. Amen.
Amen.
Ça
va bien aller.
Amen.
Et tu as décidé de mettre les femmes à l'honneur puisque nous sommes dans une émission de femmes et on va pouvoir voir différents portraits de femmes mais d'une façon, d'une perspective moderne et contemporaine. Voir comment toutes ces femmes qu'on retrouve dans la Bible dont on a déjà entendu parler qui sont des modèles, mais comment elles peuvent être un modèle aujourd'hui dans nos vies modernes, comment ça peut encore s'appliquer avec nous. Et puis juste pour commencer, pasteur Alain Patrick, tu es pasteur de plusieurs églises, tu es apôtre en fait, et tu as fondé plusieurs églises un petit peu partout en France.
En France, oui.
Je te laisse.
Et en France, à Brest, à Rennes, à Paris-Montreuil, Paris-Épinay, en Normandie, à Vernon, à Lyon. On a lancé à Quimper, on a lancé à Montpellier, on a lancé à Libreville depuis 3 semaines. Et puis, on a d'autres projets de lancement d'ici là.
Et nous, on a eu l'occasion de se rencontrer en Bretagne.
C'est ça, exactement.
C'est, et d'ailleurs, il est super breton. Hein.
Ouais.
Ça se voit pas,
Amen.
Mais c'est un vrai breton.
En breton, c'est le tsengek.
Voilà. Exactement. Et on s'est rencontrés il y a
17 ans, oui.
16-17 ans, donc non, je n'ai pas 20 ans. Et oui, on s'est rencontrés, puis en fait, tu faisais des réunions de jeunes à l'époque. Tu venais d'arriver toi-même du Gabon. Et Alain Patrick, c'était le gars à la cité universitaire qui était en feu.
Amen.
Et tout. Et du coup, quelques jeunes ont commencé à se rapprocher de toi. Et
c'est ça. Michael, Lobo, Jérémy, ton époux.
Et
à partir de là, le groupe.
Oui,
et puis on a pu évangéliser pas mal de jeunes maintenant. Ouais.
Et moi, je suis venue au Seigneur à ce moment-là.
Amen.
En même temps que Gwen qui fait Hosanna, que mon beau-frère aussi, Anthony.
Amen.
On a été plusieurs jeunes à venir au Seigneur, puis gloire à Dieu, on est toujours au Seigneur aujourd'hui.
Amen.
Et on sert
Amen.
Le Seigneur et on est toujours
Amen.
Amis après
Amen.
Toutes ces années.
Amen.
Et ouais, on a commencé.
Malgré le test de la distance.
Oui.
Malgré le test de la distance.
Tu as commencé dans une chambre universitaire.
Amen.
Je sais que tu m'avais montré une vidéo de quelqu'un qui avait été ressuscité.
Serena Bonk, elle était un peu macabre, cette vidéo.
Il se moquait de moi. Il se moquait de moi au début parce que je disais tout le temps, oui, mais les gentils vont pas être sauvés et tout. Non, mais Annabelle, on sait pas, la vie, c'est pas Bioman. Hein. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je te reçois dans mon émission. Et donc, comme je disais, on va parler de différentes femmes tout au long de la semaine et voir les différents pièges à éviter. Parce que vraiment, la femme, depuis le début, on va voir depuis Ève, a eu différentes formes d'adversité pour l'empêcher d'entrer dans sa destinée.
Exactement.
Et nous savons, et nous le disons ici dans Parole de Femmes, les femmes ont de grandes destinées qui ont la puissance de changer des générations entières et complètes, comme ça a déjà été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'Ève.
Amen, 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 amen. Ève, c'est une femme, en fait, que beaucoup accusent d'avoir mis le monde dans...
Le pétrin.
Voilà, dans des graves pétrins. Lorsque vous étudiez l'histoire de Ève, vous rendez compte que c'est vraiment une dame qui a fait preuve de beaucoup de courage parce qu'elle va perdre quand même deux de ses enfants. Il y a un qui va mourir, tué par l'aîné, et le meurtrier des enfants va être chassé loin de la famille. Et cette dame-là, malgré ça, on voit plusieurs années après, elle résiste. Et voilà, pour moi, elle tient le coup, quoi. Mais s'il faut revoir un peu le début de l'histoire... quelqu'un chantait une chanson, Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils.
Aïe, aïe, aïe.
Pourquoi avez-vous mangé cette pomme? Déjà, c'est pas une pomme.
Hein. Tu fais quoi quand t'entends ce genre de musique? Est-ce que tu danses? C'est quoi?
Complètement ridicule. C'est déjà pas une pomme. Mais la première erreur, je pense, d'Ève, je crois que c'est la curiosité. Elle a été curieuse. Mm-hmm. Dieu a dit à Adam, il faut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam va le redire à sa femme. Et quand le serpent va parler à Ève, Ève va dire au serpent, Dieu nous a dit, on ne doit pas manger du fruit de l'arbre. On ne doit même pas toucher. Voici d'où commence la religion. Dieu n'avait jamais dit qu'il ne fallait pas toucher. Dieu avait dit qu'il fallait pas manger. Mmh. Il y a eu un rajout et c'est là où la religion commence parce que la religion se rajoutait toujours des choses sur ce que Dieu a dit pour essayer de sacraliser plus, d'aggraver les choses et au final, on peut même passer à côté. Bon, c'est pas ça le débat aujourd'hui. Le débat un peu c'est qu'est-ce qui a poussé Ève à manger cette pomme? Qu'est-ce qui a amené Ève à manger la pomme? Bon, certains
la
vont dire le fruit. Oui, la gourmandise. Non, je pense pas. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'autres fruits qui étaient aussi délicieux, qui étaient agréables. Et par contre, je pense que la curiosité, l'envie de découvrir. C'est ça peut-être qui l'a amené à faire ça. J'ai une petite histoire. J'ai découvert que les femmes, elles étaient très curieuses. Une fois, on a reçu une femme de Dieu chez nous. Et là, la femme de Dieu m'appelle, elle me dit, Pasteur Alain Patrick, je veux te voir dans mon hôtel tout de suite. J'ai des choses importantes à te dire. Et je dis, OK. Et mon épouse me dit, mais pourquoi? Pourquoi elle veut te voir toute seule? Je comprends pas. Je vais t'accompagner. Je dis, OK, viens, mais elle a dit qu'il fallait que je vienne toute seule. Non, je veux t'accompagner. Donc, on arrive comme ça. Et puis, la dame nous dit, j'ai appelé toi. Je n'ai pas appelé toi. Allez, dehors. Oh. Paulette. Ah, je vous assure, hein. Réelle, cette histoire.
Et on dit réelle. Pas dehors, Paulette.
Mais, écoute la petite histoire. Donc, elle sort. Par respect, tout ça, et je reste à parler avec la prophétesse, tout ça, avec cette dame-là, et elle s'arrête à un moment donné, elle dit, c'est bizarre, elle est derrière la porte. Et je dis, mais non, elle est pas derrière la porte, elle est partie, elle a bien respecté ce que tu as dit, non, elle est pas derrière, elle dit si, elle est derrière la porte. Je dis, bon, on vérifie la porte, on vérifie, on regarde. Il y a rien du tout. Et on finit la conversation et on part, on retrouve Paulette au hall. Et là, je lui dis, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui dis, bon, elle a parlé de ça. Je lui dis, tu sais, c'est pas juste, hein, je trouve pas correct qu'elle te demande de partir comme ça, machin. Je pense que c'est la dernière fois qu'on va l'inviter. Je la trouve un peu très machin. Et là, je lui dis, c'est bizarre, par contre, quand on parlait, elle m'a dit elle sentait que tu étais derrière la porte. Et quand on est arrivé, il y avait rien, elle me dit. Et là, Paulette me dit, ouais, mais j'étais derrière la porte et je vous ai entendu venir, j'ai couru et je me suis cachée. Genre pour dire, en fait, je lui ai dit, mais dis donc, mais tu es vachement curieuse. Elle dit, non, mais je ne comprends pas pourquoi.
Non, elle est sage.
Et voilà, elle est sage.
Elle est sage, moi je dis bravo Paulette.
Et une autre fois, je l'ai interdit de lire un livre, elle venait de se convertir. Je lui ai dit, non, ce livre-là, tu peux pas le lire encore parce que tu n'as pas encore la maturité pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Et derrière moi, elle a lu le livre. Et quand je suis rentré à la maison, en fait, je l'ai trouvé, elle pleurait. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? J'ai lu le livre. Je lui dis, mais pourquoi tu as lu? J'étais interdit. Elle dit, j'étais curieuse, je voulais savoir pourquoi tu m'interdis. J'ai dit, mais voilà, t'es en train de pleurer. Oui, je ne sais plus si je suis sauvée, je ne sais plus si... J'ai dit, mais voilà, il raconte plein de trucs. Si tu n'as pas la maturité, tu peux avoir des problèmes. Et souvent, j'ai remarqué cette particularité chez les femmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose?
Ça dépend.
Très bien.
Puisque je suis curieuse, alors j'ai envie d'en savoir plus. Mais en ce qui concerne Ève, on voit que ça l'a poussée à la désobéissance.
Ouais,
en fait.
La
curiosité qui s'apparente à de la soif, qui abonde vers le bon, c'est une bonne chose. Mais c'est sûr, cette curiosité qui nous pousse à franchir certaines limites et qui nous pousse à la désobéissance, ça c'est autre chose.
C'est ça.
Curiosité, je voudrais juste revenir sur la curiosité. Et qu'on tire à boulet rouge sur les gens curieux. La curiosité, c'est la base de l'intelligence.
Exactement.
Parce que mmh. quelqu'un qui est intelligent est curieux. Mmh. Alors après, il faut que ce soit une curiosité qui est canalisée, mais Amen. C'est pas un c'est défaut. Ça. Si on dit la curiosité est un vilain défaut, je dis non. Mmh. Ça dépend vers quoi elle c'est est orientée.
Amen.
Parce que
Amen.
La curiosité bien orientée, c'est un signe d'intelligence, et de, c'est une source de richesse.
Exactement. Mmh.
Et là, elle va manger le fruit, Ève. Et quand elle va manger, elle va donner à son mari. Et le mari va manger. Parce qu'il était amoureux. Annabelle ne croit pas trop. Je dis bon, non. Il a vu que le fruit était très bon. C'est pour ça qu'il a mangé. Et je me rappelle, quelqu'un m'a dit dans mon église, ouais, mais bon, moi, quand je serai au ciel, franchement, je parlerai à Adam et Ève. Je leur dirai, mais pourquoi vous avez fait ça? Et toi, Adam, pourquoi tu as suivi ce que Ève a fait? Et puis bon, on commence à incriminer parfois Ève et on se dit, ben tiens, c'est à cause d'elle que l'humanité est dans le pétrin. Mais on oublie que Adam a aussi mangé le fruit. Même. Et Adam aurait pu refuser.
Tout
Adam,
à fait.
Voilà, Adam aurait pu dire non, oui. Dieu a dit qu'on ne mange pas ça. Et donc on ne mange pas.
Recrache, recrache. Voilà.
Ça a pris une tournure.
Ce qui est un peu, je ne sais pas s'il faut dire dramatique, c'est que Adam était quand même à côté hein, quand Ève mangeait. Donc je pense que Adam pouvait empêcher Ève déjà de prendre le fruit.
Oui, oui, oui.
C'était son rôle.
Et puis c'est certain qu'on n'a pas tout le dialogue non plus.
Ouais.
Et puis Ève, je pense que ça part de bonnes intentions dans le sens que elle était curieuse et comme Anne le dit, la curiosité c'est une forme d'intelligence.
Ouais.
Et moi j'ai une de mes filles qui pose des questions énormément, des questions parce qu'elle a soif d'apprendre et de savoir. Mm-hmm. Mais c'est pas nécessairement malsain. Mm-hmm. Et mais là puisqu'il y avait la connaissance du bien et du mal dans ce fruit, elle était curieuse. Mais est-ce qu'elle était consciente à quel point c'était pour l'amener dans un pétrin. Si elle avait su, je suis certaine qu'elle aurait hésité, qu'elle n'aurait pas fait. Vraiment, oui, je crois vraiment qu'il y avait une responsabilité sur
l'homme
aussi, de l'encourager à ne pas faire.
C'est ça.
Et à prendre conscience que si elle posait le geste, que c'était pour être fatal.
Peut-être que finalement, l'homme aussi était curieux de savoir.
Peut-être bien.
Peut-être. Et voici, bon, ils vont être chassés du jardin d'Éden et la Bible dit que Ève va tomber enceinte. Adam va connaître sa femme et elle va mettre au monde un premier enfant, Caïn, et après un deuxième enfant, Abel. Et la Bible nous dit que Caïn va tuer Abel. Mm-hmm. C'est quand même le premier meurtre de l'histoire de la Bible. Et lorsque on essaie un peu de mettre cette histoire dans le contexte actuel, imaginez une femme qui a deux enfants, et la Bible certainement nous donne des indices selon lesquels ils avaient aussi des filles. Ils vont avoir deux enfants, deux garçons, et le plus grand va tuer le plus petit. Je ne sais pas si vous imaginez quelle peine, quelle douleur ça peut faire pour cette femme-là. Ouais. Et il y a un mandat d'arrêt international contre le contre l'assassin, et l'assassin va être chassé du pays, du cocon familial. J'aimerais m'adresser un peu à toutes les femmes qui peuvent vivre de telles situations, parce que je sais que lorsque j'étais dans mon quartier à Libreville, il y avait des familles comme ça, des familles qui étaient déchirées, et les enfants se battaient, mais de façon violente. Et je voyais la maman pleurer parce que les enfants, ils étaient grands, ils étaient vraiment déjà, ils étaient âgés, et ils se tapaient. Et parfois, c'était les grands frères qui tabassaient le petit frère, et la maman va se mettre à pleurer, impuissante, incapable de pouvoir séparer les enfants. Toute faible, elle ne pouvait pas. Et parfois, même lorsqu'elle essayait de séparer, on la balançait, et puis elle tombait. Oui, vous êtes là, vous regardez ça, vous dites, mais mon Dieu, mais quelle peine pour cette dame. Quelle tristesse pour cette dame. Et j'essaye de me mettre à la place de Ève. Ça devait être vraiment terrible. Et c'est pour ça que je pense que cette dame a été très, très courageuse. Comme peut-être certaines dames qui nous regardent actuellement, qui vivent de telles situations, qui font preuve de courage. J'aimerais leur dire que si vous ne connaissez pas Jésus, en vous attachant à Jésus, le Seigneur va vous donner la force et la sagesse de pouvoir gérer de telles situations. Maintenant, si vous connaissez Jésus, il faut vraiment remettre la situation entre les mains de Dieu. Remettez la situation entre les mains de Dieu. Priez, déclarez la paix dans votre famille, parce que la volonté de Dieu n'est pas que votre famille soit divisée, parce que ça fait énormément de peine. C'est terrible pour une maman de voir des enfants divisés. Mathilde, tu as des enfants, vous avez des enfants, c'est terrible de pouvoir voir ça. Et je bénis le Seigneur parce que nos enfants sont chrétiens, et voilà quoi, et ça va, mais pour ceux qui vivent ça, je pense que ça peut être douloureux. Ouais. Et Ève a vécu ça.
Dans le même sens, parce que là, je pense vraiment aux personnes. On parle de familles déchirées.
Oui.
Et je pense aussi à des femmes qui subissent dans les familles des choses comme les incestes, tous ces trucs-là. Et on a tellement, et parfois c'est caché parce que ça reste dans la famille. On est au courant qu'il y a ça qui ne fonctionne pas, avec peut-être des parents violents et tout ça. Et vraiment, le conseil que le pasteur Alain Patry vient de donner, c'est vraiment se plonger en Dieu, parce que parfois les tableaux familiaux semblent très beaux, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment catastrophique. C'est vrai. Donc vraiment, le Seigneur est là et c'est vraiment l'issue de secours dans ces circonstances-là.
Amen. Même sans aller jusqu'au meurtre, parce que là, c'est vrai que dans le cas d'Abel et Caïn, c'est vraiment un meurtre qualifié. Mais dans les familles, sans aller jusqu'au meurtre, il y a des enfants qui s'entre-déchirent pour toutes sortes de raisons, des offenses quelconques, ou même des fois des problèmes d'héritage, des problèmes d'argent. Souvent, c'est de l'argent d'ailleurs, qui est à la base des problèmes dans les familles. Et ça met une ambiance terrible et ça déchire les foyers chrétiens aussi. Et je pense que dès tout petit, il ne faut pas attendre que les problèmes se posent pour instaurer la paix dans nos familles. Là, vous parliez, pasteur, de prier pour qu'il y ait la paix dans nos familles et déclarer qu'il y ait la paix dans nos familles. Et je pense que ça commence avant même qu'il y ait éventuels problèmes qui arrivent. Et déjà, tout petit, on peut remettre notre petite fratrie, là, notre petite couvée, comme disait mon papa. Quand il regardait mes trois filles, il disait, c'est ta petite couvée. Ben, nos petites couvées, dès tout petit, il faut prier pour que Dieu mette la paix et un amour fraternel, sincère et profond entre nos enfants. Parce que moi, je l'ai vu chez mon beau-père, avec ses trois sœurs, ils s'entendent très, très bien. Et en vieillissant, maintenant, ils approchent tous les 80 ans, ils s'entendent toujours aussi bien. Et à la retraite, ils sont tous allés habiter les uns à côté des autres, ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Et je suis convaincue que ça, c'est vraiment un idéal de famille chrétienne et que ça se prépare tout petit. Et que c'est le rôle des parents de vraiment se positionner dans des cas, même quand ils sont jeunes, il y a de la dispute. Non, il faut vraiment travailler à la paix dans nos familles. Et puis, c'est un sujet de prière majeur dans nos familles.
Moi, si je peux partager rapidement pour mes deux filles, quand elles étaient très jeunes, c'est comme il y avait un esprit de compétition. Et moi, je suis allée à chaque jour dans mon lieu secret, je priais pour mes filles et je déclarais qu'elles étaient les meilleures amies du monde. Et puis c'est pas facile quand on voit des fois c'est les filles se disputer parce que en fait chez moi je pense que c'est de la comparaison et souvent dans les familles c'est
il y a beaucoup de comparaison.
Il y a de la comparaison.
Exactement.
Ce qui était le cas de Caïn et Abel.
Voilà.
Et donc ce qui a poussé l'aîné à tuer c'est qu'il a comparé son offrande. Et bon bref, mais c'est juste pour vous dire que quand on prie dès leur jeune âge, et même quand ils sont dans notre ventre, eh ben ça se restaure parce qu'aujourd'hui, mes filles sont, je peux vous dire qu'elles sont inséparables, et je bénis Dieu, et Dieu peut faire cette œuvre dans votre famille.
Parce qu'au final, c'est une affaire de jalousie, parce que Caïn va jalouser Abel. Et dans les familles, on voit ça souvent, parce qu'il y a parfois un gros contexte de compétition. Ah oui, toi, tu es le plus intelligent parce que tu travailles mieux à l'école. Ah oui, tel est plus obéissant, et plus obéissant que tel autre. Et du coup, ça va créer des frustrations et des offenses chez l'autre enfant et ça peut devenir de l'animosité et de l'animosité qui peut détruire la famille parce que les enfants quand ils grandissent après ils vont se mettre à se détester, peut-être il y aura une distance qui va se créer, il y aura un manque d'amour. Bon, dans le cas de Ève et d'Adam, il y a eu, c'est grave, il y a eu un meurtre. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que mine de rien leur couple a tenu, hein. Leur couple a tenu parce que c'est des choses qui peuvent affecter des couples.
Ah, bien sûr.
La perte d'un enfant, ça peut affecter. Et on ne sait pas parce que très souvent, peut-être que, je suppose, hein, peut-être que Adam, ça pouvait arriver. Peut-être qu'il prenne la part d'Abel ou qu'il prenne la part de Caïn. Ça arrive dans les familles. Hein, je suis juste en train de caricaturer. Hein, dans les familles, lorsque deux enfants ne s'entendent pas, parfois... la maman implicitement elle est du côté d'un, le papa du côté de l'autre. Les parents sages ne vont pas le montrer aux enfants. Les parents sages ne vont pas le montrer, mais les parents qui ne sont pas sages vont le montrer. Hein. Et ça peut détruire la famille.
Ouais, mais il y a du non-verbal, puis même si on le montre pas, bah, si on a une préférence pour un de nos enfants, ils vont le sentir.
Ouais,
c'est pour ça que je voudrais insister sur le fait que si on veut garder la paix dans nos familles, il faut aussi valoriser chaque enfant pour ses qualités.
Amen.
Parce que il faut pas minimiser les blessures, les offenses de l'enfance. Parce qu'elles vont nous poursuivre toute la vie, et des offenses qui nous ont été faites parce qu'on a vu que nos parents préféraient le grand frère parce qu'il était meilleur en sport, qu'il était plus zélé à l'église, je sais pas quoi. Et ben ça va nous poursuivre toute notre vie d'adulte. Et si on veut qu'il y ait la paix durable entre nos enfants, il faut valoriser chacun de nos enfants et bien le montrer, et puis veiller à notre cœur, parce que de toute façon, le non-verbal, ça va transpirer ce que vous pensez. Ouais. Et si vous avez un préféré parmi vos enfants, ils vont le sentir, ils vont le savoir, ils ont des antennes. Et donc, ça part du cœur de la mère et du père. Il faut que le père et la mère aient un cœur vraiment équitable entre leurs enfants, puis que s'il y a des préférences, ils se remettent devant Dieu. Disons, mais Seigneur, montre-moi ce qui est de bon chez cet enfant que je préfère, qui n'a pas ma préférence. Parce qu'on est humain, et puis c'est sûr qu'on a des atomes crochus plus avec une personnalité ou une autre, mais quand on est parent de plusieurs enfants, on se doit de garder notre cœur pur et de vraiment garder devant Dieu notre cœur équitable pour nos enfants.
Et comme tu dis, les enfants ont des antennes, et c'est clair qu'ils ont une prédisposition pour le voir, et puis ils vont même pousser. Mais toi tu préfères, toi tu cela. Donc vraiment, en tant que parent, on a cette responsabilité d'aller devant Dieu pour nous rééquilibrer et pas attendre que ce soit nos enfants qui changent, en fait. C'est vraiment à nous, en tant que parents, de le faire. Et puis, pour en revenir à Ève, c'est sûr que c'est une femme qui a vécu beaucoup d'épreuves, et puis on lui en met beaucoup sur le dos. Mais quand on remet ça dans un contexte actuel, c'est une femme, c'est sûr, qui a perdu deux enfants dans des conditions tragiques. C'est une femme qui a connu la gloire, et puis du jour au lendemain, tout s'écroule pour elle, de sa faute en plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aussi portent le poids de la culpabilité d'avoir, pour un échec, c'est de ma faute aujourd'hui si on en est là, c'est de ma faute, c'est à cause d'une erreur que j'ai faite. Ça peut être quelquefois un adultère dans le couple, ça peut être une mauvaise relation, une mauvaise décision. C'est moi qui ai insisté pour qu'on déménage, c'est moi qui ai insisté pour que tu prennes ce travail. Ça a mal tourné, et beaucoup de femmes vivent avec cette culpabilité. Et on sait pas exactement comment Ève a géré ça de façon émotionnelle, mais on voit qu'elle a continué, en tout cas. Je veux dire, elle a vécu. Ça, c'est déjà une victoire. Elle a vécu, elle a continué de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, de se multiplier. Franchement,
quelle belle destinée.
C'était l'ordre qu'elle avait reçu. Pour ça, c'est vrai, et peu de fois, on salue le courage d'Ève. Puis elle a vécu longtemps, en plus.
C'est clair.
Il y a des femmes à vivre constamment dans le passé, et t'entends ce que ton mari a dit. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est de ma faute, on m'en veut. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans ce regret avec énormément de culpabilité. Et comment elles peuvent faire aujourd'hui pour s'en sortir?
Ok, si vous êtes chrétien, le Seigneur vous a pardonné déjà. Et c'est important que vous sortiez de la culpabilité. Le pardon, c'est quelque chose qui se reçoit par la foi. La Bible nous dit dans le livre de Actes qu'on reçoit le pardon. Le pardon a déjà été accordé. Et c'est important que vous puissiez l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous vivrez dans la culpabilité, et la culpabilité va vous détruire. Coincer votre potentiel et vous empêcher d'aller un peu plus loin, parce que c'est quand même des pensées très, très fortes et prenantes. Lorsque quelqu'un est sous le poids de la culpabilité, ça peut être vraiment embêtant. Maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime et Jésus vous a déjà pardonné. Quelle que soit l'erreur que vous avez faite, il vous a pardonné, et je vous invite à l'accepter, à l'inviter dans votre vie, accepter le pardon de votre péché et à devenir chrétien. Vous vivrez libre de toute culpabilité. Je suis dans la joie. L'une des choses pour lesquelles je suis content, c'est parce que mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Il y a de quoi être dans la joie. Alléluia. Merci beaucoup, Mathilde. Alléluia.
Merci pour cette chanson.
Amen. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je suis Colgate, quoi, en fait. Je rigole tout le temps parce que je suis dans la joie, parce que mes péchés sont pardonnés. Ah, Dieu est un Dieu bon. Amen. Et il t'a déjà pardonné.
Il y a certaines femmes qui voient le péché comme quelque chose de vraiment gros, des gros faux pas. Mais je veux rappeler que les petites erreurs ont aussi une rédemption. Il y a une rédemption à la croix pour nos petites erreurs. Amen. Et que même si on a commis des erreurs et qu'à cause de nos erreurs, il y a eu des conséquences. Amen. Dans nos familles, dans nos enfants, Dieu nous pardonne, même si ça fait longtemps. Et il y a une vraie rédemption pour nos erreurs.
Amen. Et Jésus a pris notre honte aussi.
Accepter de déposer ce fardeau-là à Jésus, tout simplement. C'est lui qui va l'enlever. Ce n'est pas par notre propre force. Juste accepter de laisser Jésus prendre le poids de notre culpabilité, de notre fardeau, de nos fautes, de tout ce qui peut venir nous rendre coupables. Vraiment déposer ça au pied de Jésus et considérer que voilà, c'est fait. Accepté par la foi, comme on l'a dit.
Et puis si on a fait des erreurs contre nos enfants, même si ça fait 30 ans, il n'est jamais trop tard pour aller les voir, pour leur demander pardon.
Amen.
Dire je reconnais que j'ai fait une erreur, des fois notre orgueil il en prend toute une volée. Mais dire écoute ma fille, t'as 40 ans maintenant, mais quand t'étais petite j'ai été injuste envers toi, je m'en rends compte, et je te demande pardon.
Et ça va être une source de guérison.
Exactement.
Amen. Vraiment. Amen. Et je sais qu'il y a une génération où les parents ne demandait pas pardon parce que le parent avait toujours raison.
C'est ça.
Ou peut-être que c'est comme ça dans des cultures, mais c'est biblique de demander pardon, qu'on soit parent ou qu'on soit enfant ou qu'on soit un adulte. Et je crois que ça serait une source très grande de réconciliation.
Il ne faut pas minimiser l'impact de notre demande de pardon.
Absolument.
C'est énorme pour un enfant que son parent vienne lui demander pardon.
Et très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, Pasteur Alain, c'est l'importance aussi de prier pour nos enfants parce que on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais Ève avait discerné comme un appel spécifique et l'importance qu'on a de prier pour nos enfants lorsque ceux-ci reçoivent des paroles, même quand ils n'en reçoivent pas de toute façon, mais comment on peut prier pour eux de façon efficace.
Dieu va prophétiser sur la descendance de Ève, qui écrasera la tête du serpent. Et Ève, je pense, en mettant au monde Caïn, va penser que Caïn, c'est celui-là qui va effectivement amener la rédemption dans le monde. Et le diable va s'acharner sur Caïn et on voit le résultat. Lorsque nos enfants reçoivent une parole prophétique, c'est important de pouvoir prier pour eux. C'est important de déclarer ce que Dieu a dit sur leur vie et annuler les plans de l'ennemi pour que les plans de Dieu puisse s'accomplir librement. Amen. Extrêmement important de faire ça. Il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Il ne faut pas se tourner les pouces et dire Dieu a dit qu'il sera un grand prophète. De toutes les façons, tu seras un grand prophète. Je n'ai rien à faire. Non, il faut prier pour l'enfant.
Il faut rappeler les prophéties.
Il faut rappeler les prophéties.
Il faut toujours rappeler les prophéties.
Amen. Amen.
Eh bien, merci beaucoup à vous tous pour cette émission sur Ève. Ève, comme vous ne l'avez jamais vue, Ève, finalement, était une femme pour qui on peut avoir beaucoup de compassion, une femme qui a eu beaucoup de souffrance.
Oui.
Et c'est sûr que c'est pas facile. Elle a fait une erreur, mais elle a poursuivi. Alors, je veux vraiment vous encourager. Comme vous l'avez entendu, si vous avez fait une erreur, sachez qu'il y a un pardon auprès de Dieu et que vous pouvez aujourd'hui, surtout si vous avez déjà accepté Jésus, marcher dans cette vie où vous avez déjà été pardonné et qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Le passé est passé. Vous avez été pardonné. Donc, vraiment, goûtez à cette nouvelle liberté. Et comme Ève, elle a sûrement été, soyez aussi consolés, soyez fortifiés et passez du temps avec Dieu pour qu'il puisse vous rappeler votre identité et votre destinée, même si ça avait mal commencé. Et on se retrouve demain et on parlera leadership pour une femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.